Donc, je suis Catherine Czerski, je suis une astrophysicienne qui a eu une carrière très internationale, mais je suis essentiellement, surtout en France, depuis 1974. Et j'ai pas fait que de l'astronomie, j'ai fait d'autres choses dans mon parcours. Et j'ai fait de la théorie au départ et par la suite des instruments spatiaux. Et par la suite, j'ai beaucoup donné, je continue pour la construction d'infrastructures de recherche.
Très bien. Quel a été votre parcours d'étudiante?
Alors, mes parents étaient français, mais après la guerre, mon père s'est vu offrir un poste de diplomate à Buenos Aires. Dans une période où les choses étaient très difficiles en France économiquement, et j'étais la troisième, j'avais trois petites filles, moi j'étais un petit bébé, en fait non, j'avais 2 ans et demi à l'époque, voilà. Et donc ils sont allés en Argentine, et quand il a fini son poste de diplomate, c'était juste une chose passagère, parce que ce n'est pas du tout la carrière qu'il suivait, et il n'avait rien qu'il attendait du point de vue économique en France. Et finalement, il est resté en Argentine où il a ouvert une librairie franco-argentine et c'est ça qu'il a fait sa carrière comme ça. Donc moi, j'ai été élue en Argentine. J'ai vécu en Argentine de 2 ans et demi à 23 ans. Donc même si j'ai jamais eu de passeport argentin, je me considère franco-argentine. Et mes études étaient donc forcément en Argentine. Donc j'ai fait le lycée français de Buenos Aires, j'ai un baccalauréat français. Et ensuite, j'étais à l'université de Buenos Aires pour faire des études de physique pendant 5 ans, niveau master, disons, j'ai fini niveau master. C'était une très très bonne université, j'ai reçu une formation excellente, certainement aussi bien ou mieux que n'importe où ailleurs dans le monde. Et puis, pendant 1 an et demi, j'ai travaillé avec un groupe qui construisait un radiotélescope en Argentine. Je m'étais déjà spécialisée dans l'astronomie vers la 4e année de mes études. Et suite à la construction de ce radiotélescope, elle nous a permis de rencontrer des astronomes importants de divers pays qui sont venus quand on l'a inauguré, dont quelqu'un qui travaillait à Harvard et qui a trouvé que moi-même et le garçon avec qui je sortais à l'époque, il nous a trouvé intéressant et il nous a fait demander des bourses à Harvard. Alors, entre-temps, on s'est marié, mon mari, donc c'est lui qui s'appelle Czerski, Diego Czerski, qui s'appelait. Malheureusement, il est décédé. Et nous avons obtenu tous les deux des bourses pour aller étudier à Harvard. Donc, on a fait tous les deux un doctorat à l'université de Harvard, c'est évidemment une chance inouïe. Et puis ensuite, on a obtenu tous les deux des postdocs à Caltech, California Institute of Technology, donc vraiment dans les meilleurs, absolument meilleurs endroits, non seulement des États-Unis, mais du monde, une belle inouïe. Et après nos 2, 3 ans à Caltech, de toute façon, nos visas expiraient complètement, on avait poussé la limite de ce qu'on pouvait faire, parce qu'on était venu avec des visas d'étudiants. Et on voulait rentrer en Argentine, mais la situation politique en Argentine a fait que nous nous sommes désistés. Et tristement, nous sommes rentrés en Californie en nous demandant ce qu'on allait faire. Et comme on avait rencontré des Français, on a très rapidement eu des offres pour venir travailler en France, sans qu'on ait rien demandé. Elles sont tombées du ciel par le biais de nos rencontres. Et voilà, en 1974, donc, nous sommes venus en France. Moi, j'ai eu un poste au commissariat à l'énergie atomique. Et mon mari a eu un poste au CNRS. Voilà. Nous avons donc fait la suite de nos carrières essentiellement en France. Donc j'ai au CEA, je n'attendais pas, mais je me suis retrouvée gravir beaucoup d'échelons de direction jusqu'à franchement les plus hauts de la maison. Et au milieu de ça, pendant 8 ans, je suis partie diriger l'Observatoire européen austral, ce qu'on appelle ESO. J'ai été directrice générale de 1999 à 2007. Voilà. Et puis quand je suis rentrée, donc j'étais au commissaire à l'énergie atomique. Et puis après, j'ai fait des activités diverses. Et en ce moment, je m'occupe de la construction du plus grand radiotélescope mondiale qui s'appelle SKA, Square Kilometer Array.
Alors, que représente le CEA? Pouvez-vous nous rappeler un petit peu ce que représente le CEA, sa fondation, sa création sous la direction notamment du général de Gaulle, il y a plusieurs décennies, bien entendu?
Voilà, c'est un très très grand organisme de recherche. Quand il a été créé, il y avait Joliot, évidemment, qui était la grande personnalité en France pour l'énergie nucléaire, dont on peut dire qu'il a inventé l'énergie nucléaire. Beaucoup de gens l'ont inventé en même temps, mais disons, lui, il l'a inventé aussi. Il aurait pu être l'inventeur de l'énergie nucléaire. Et le général de Gaulle voulait avoir la possibilité d'avoir de l'énergie nucléaire en France, et puis comme vous le savez, évidemment, la bombe. Donc, nécessité de créer un CEA militaire et puis un CEA civil pour l'énergie nucléaire. Et avec quelqu'un comme Joliot jouant un rôle important au début, tout le monde était conscient que ça ne pouvait pas se faire simplement en mettant quelques techniciens, qu'il fallait de la science et de la recherche fondamentale et des avancées scientifiques. Et donc, on a créé d'emblée un organisme qui avait aussi de la recherche fondamentale et qui donc n'a fait que croître, on va dire, depuis, je ne sais plus, la dernière fois que je regardais, il y avait 17 000 personnes, peut-être qu'il y en a plus, maintenant il y a plus de 20 000, hein, au total, et qui est divisé dans des activités. Maintenant, ça a changé de nom. Quand j'étais au commissaire, je dois dire que moi-même, j'ai beaucoup poussé à ce que le CEA s'intéresse aussi aux énergies alternatives. Et le CEA a changé de nom, il s'appelle le Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives. Donc, du point de vue énergie, on étudie aussi le solaire, les batteries. Enfin, on est très en pointe dans ce genre de travaux en France. Il y a toujours eu donc un groupe qui fait de la recherche fondamentale en physique et chimie. Et puis, il y a un groupe qui fait de la recherche fondamentale en sciences du vivant. Et ça aussi, il l'avait depuis le début, puisque déjà Marie Curie s'était intéressée à l'utilisation des rayons pour la santé. Et donc, Joliot, dès le début, disons, Maria, la fille de Marie Curie, s'est assuré que le CEA aurait tous ces aspects-là et implanté dans un hôpital et puis des recherches tout à fait de pointe sur tout ce qui est IRM et utilisation du savoir nucléaire pour la santé. Donc, il y a aussi un grand groupe de recherche fondamentale en sciences du vivant. Et puis, il y a aussi un très grand groupe qui fait des recherches technologiques. Et qui, en France, a réussi à ce que soient créées des industries de très très haut niveau pour les composants électroniques, qui font que la France aujourd'hui, comme vous le savez, tout ceci est plutôt trusté par des pays comme les Américains ou Taïwan. La France tire son épingle du jeu grâce à ces industries qui ont bénéficié et qui continuent à bénéficier et qui sont très proches du CEA. Tout ça se passe à Grenoble. Donc, pour moi, c'est un organisme de recherche extrêmement riche, extrêmement performant, avec beaucoup de possibilités. On dit le CEA de la recherche à l'industrie, et c'est exactement ce qu'il fait, donc, et de la recherche la plus fondamentale à l'industrie la plus poussée, avec beaucoup de possibilités quand on est au CEA de changer de sujet, de changer de lieu, de changer de travail. Et je trouve ça très, 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 très bien. Et puis donc un CEA militaire séparé qui est celui qui suit les développements de la dissuasion pour la France, quoi.
Très bien. Alors, avez-vous une rencontre particulière durant votre parcours d'étudiante ou professionnelle qui vous a influencé pour vous orienter sur une carrière liée à l'astrophysique, à la recherche fondamentale et par la suite, bien entendu, au spatial, puisque vous avez une partie de votre carrière non négligeable en relation liée au spatial, au satellite?
Je dirais que ma principale rencontre, c'était uniquement pour l'astronomie au sol, mais celle qui a vraiment été capitale et sans laquelle d'ailleurs je ne serais sûrement pas devenue une astrophysicienne, c'était encore très très tôt, c'était quand j'étais étudiante à l'université de Buenos Aires. Donc j'étais étudiante de physique et quand je suis entrée, il n'y avait pas du tout d'astrophysique. Ce n'était pas une des disciplines présentées. Et puis quand j'étais en troisième année, il fallait déjà commencer à choisir dans quelle direction on allait pour le mémoire de master. Et j'étais en train de voir les divers sujets, mais j'étais pas terriblement convaincue par les sujets qui étaient proposés. Et j'ai eu la chance que cette année-là, il y a un très jeune professeur, il avait une trentaine d'années, est arrivé, qui était un astrophysicien. Il s'appelait Carlos Varsavsky. Et donc, lui-même avait fait ses études à l'étranger. Il avait lui-même un doctorat de l'université de Harvard. Et ensuite, il avait été postdoc à Cambridge en Angleterre. C'était vraiment aussi parmi les meilleurs laboratoires du monde. Mais il voulait beaucoup revenir en Argentine et faire avancer l'Argentine, un peu comme nous quand on est parti. C'était notre intention aussi. Et puis, on n'a pas pu. Mais donc, il est allé aux États-Unis et il a négocié avec la Fondation Carnegie. Il s'est fait offrir un radiotélescope qui avait été utilisé plutôt pour la communication, qui était donc une antenne de 30 mètres de diamètre en pièces détachées, et pour monter le premier radiotélescope en Argentine. Alors pourquoi en Argentine? Vous savez que les deux hémisphères de la Terre, on ne voit pas les mêmes parties du ciel. Et il y avait beaucoup de radioastronomie dans l'hémisphère nord. Et donc, à l'époque, on faisait beaucoup d'études sur l'hémisphère nord. Dans l'hémisphère sud, il n'y avait que les Australiens qui faisaient de la radioastronomie. Ils étaient d'ailleurs très bons, mais c'était. Donc, il y avait vraiment la place pour un deuxième acteur dans l'hémisphère sud. Et c'est pour ça qu'il a choisi la radioastronomie. L'idée étant, ça faisait finalement pas tellement d'années à l'époque qu'il avait été découvert que le gaz hydrogène, l'hydrogène atomique, émet une raie, si vous voulez, pas dans un spectre continu, mais une fréquence donnée, qui est une longueur d'onde de 21 cm. Et grâce à cette émission de l'hydrogène, il est possible de faire la cartographie de l'hydrogène atomique déjà dans notre galaxie, la Voie lactée, plus tard dans d'autres galaxies. Enfin, maintenant, on fait énormément de choses, évidemment, grâce à cette raie aux 21 cm, qui avait été découverte donc quelques années auparavant par un Hollandais, Frank van de Hulst. Donc, les Américains faisaient une carte de tout le ciel du nord et les Australiens avaient commencé à faire une carte de tout le ciel du sud. Et nous, on a dit, depuis l'Argentine, on va compléter la carte de l'hémisphère sud pour avoir tout l'hydrogène atomique visible depuis la Terre provenant de diverses régions de la galaxie. Et évidemment, il est arrivé, on lui a donné un poste de professeur. Au départ, il était le professeur en mécanique des fluides, mais ensuite, il a donné même un cours d'astrophysique. Et en tout cas, moi, ça m'a enthousiasmé beaucoup plus que tout ce que je voyais faire par ailleurs. Et donc, j'étais la première à aller le voir et à lui dire, vous aurez sûrement besoin d'étudiants, est-ce que je peux travailler avec vous? Et puis, très rapidement, plusieurs de mes amis les plus proches, dont Diego, il était encore que mon petit copain, se sont rapprochés de lui aussi, et tout un groupe d'entre nous l'a rejoint et est entré en astrophysique. Donc, ces premières années, il a fallu construire le radiotélescope, c'était vraiment presque du travail manuel, c'était du travail manuel, franchement. Et puis aussi faire la partie électronique, et ça, mon mari était très très fort et a joué un rôle très important pour toute la partie électronique. Tandis que moi, qui étais une théoricienne, je faisais vraiment les basses manœuvres. Mais bon, et on a pu prendre un peu de cours, il y avait quand même des cours d'astronomie à La Plata, qui était pas loin de l'endroit où était le radiotélescope, à peu près 1 heure de Buenos Aires. Donc on a quand même pris des cours. Et je lui avais dit, je vais vous aider de toutes mes forces pour construire ce radiotélescope, mais après, j'aimerais bien aller faire un doctorat aux États-Unis. À l'époque, en Argentine, il n'y avait pas encore de doctorat. Donc, entre-temps, bon, un doctorat est arrivé en Argentine. Et puis, entre-temps, donc, je suis avec Diego, donc il n'y avait plus moi seulement. Mais quand il a donc inauguré le radiotélescope, il a fait venir, comme je vous disais, ce professeur de Harvard, qui s'appelait David Laser, aussi Harm van der Hulst, le découvreur de l'arrêt à 21 cm, et d'autres personnes. Et eux, ils sont restés, ils nous ont fait quelques cours, ils ont réussi à nous connaître. Et comme je vous l'ai dit, j'ai eu la bourse Harvard. Donc, vous voyez, s'il n'y avait pas eu Karl Warszawski, je ne serais sûrement pas une astrophysicienne. Et ça aurait été vraiment dommage parce que j'adore l'astrophysique. J'ai eu beaucoup de chance. Vraiment, pour ma génération, l'astrophysique a été une continuelle boîte de merveilles qui s'ouvrait, qui s'ouvrait, qui s'ouvrait, qui s'ouvrait. Voilà.
Très bien. Alors, concernant les parties, concernant les projets en astronomie, vous êtes connu et reconnu incontestablement à l'international pour vos activités de recherche dans plusieurs domaines centraux de l'astrophysique moderne, notamment sur la première partie de votre carrière touchant principalement le domaine des hautes énergies. Vous avez occupé le poste de directrice de l'Observatoire européen austral, l'ESO, de 1999 à 2007. Pouvez-vous nous présenter l'ESO, ce que représente en fait l'ESO?
L'ESO est un très grand, enfin c'est plus qu'un observatoire, c'est une organisation internationale. Et c'est une organisation où c'est les États mêmes qui signent. Donc, une fois qu'un pays est rentré à l'ESO, il faut vraiment que tous les ans, il paye sa quote-part. Enfin, c'est ce qu'on appelle une organisation par traité. Il y a un traité de création. Il a été créé, j'ai un trou, quelle année? 60, je me suis dit 62 ou 64, 62 je crois, 1962. Et au départ, l'ESO a été créé déjà avec aussi l'idée d'aller travailler dans l'hémisphère sud, pour des raisons un petit peu similaires à ce que je vous ai dit pour le radiotélescope. Il y avait à l'époque, surtout les Américains avaient de très bons télescopes et les Européens n'en avaient pas beaucoup, mais tout ceci couvrait l'hémisphère nord. Et donc, les Européens ont décidé que pour pouvoir tenir la compétition contre les Américains, il fallait faire des télescopes aussi importants que ceux des Américains, mais qu'il valait mieux les établir dans l'hémisphère sud. Donc, pour ça, depuis le début, il y avait l'hémisphère sud dans le titre de l'ESO. Et à l'époque, quand ça a été créé en 62, ils pensaient aller en Afrique, en fait, en Afrique du Sud, parce que les Allemands avaient des installations en Afrique du Sud et invitaient les autres pays à y venir. Mais à peu près à l'année de création, l'année suivante, en 1963, les Américains, eux, avaient commencé à prospecter le Chili comme lieu pour mettre des télescopes. Et à l'époque, les Européens discutaient avec les Américains et essayaient de faire quelque chose en commun. Donc, les Européens sont allés voir les meilleurs astronomes européens du moment, dont un Français, et ils ont été absolument éblouis par la clarté des cieux, le beau temps. Enfin, ils se sont rendus compte qu'effectivement, le Chili offrait, dans les montagnes des Andes, des lieux idéaux pour mettre des télescopes. Et très, très rapidement, il a été décidé d'abandonner l'Afrique et de s'installer au Chili. Pour la petite histoire, les Français avaient déjà installé quelque chose en Afrique du Sud, qui a fonctionné quelque part en Afrique du Sud et qu'ils ont ensuite transféré au Chili. Et les Français sont les seuls à l'avoir fait, finalement. Et voilà. Et donc, l'ESO est parti comme ça. Au départ, il n'y avait que cinq pays, dont la France. La France était donc l'un des pays fondateurs. Assez rapidement, ils sont assez rapidement montés à 6. Le sixième était Danemark, hein, parce qu'au début, il y avait donc la France, l'Allemagne, la Suède, la Belgique, et l'Italie. Non, pas, pardon, c'est pas l'Italie, qui était le cinquième, la Suède, l'Allemagne, la France, les Pays-Bas. Et puis, le Danemark les a rejoints assez rapidement. Et pas mal d'années après, donc l'Italie et la Suisse ont négocié de rentrer à l'ESO en y apportant un télescope de plus. Alors pendant pas mal d'années, ça a un peu stagné parce que ils n'avaient pas l'expérience de construire ces grands télescopes. Ils ont essayé de construire un télescope de 3,60 m et ils ont mis très très longtemps à le construire. Ils l'ont inauguré au moins 20 ans après. Entre-temps, ils en avaient fait quand même des plus petits, mais ils avaient appris sous la houlette du CERN. Ils ont été carrément installé leur laboratoire au CERN et le CERN leur a appris la construction de grands instruments. Et par contre, quand ils avaient fini ça, quand ils ont réussi à finir le 3,60 m et même avant, ils avaient déjà des opticiens de très haut niveau qui commençaient à développer des concepts complètement nouveaux, en particulier ce qu'on appelle l'optique active, qui est d'avoir un télescope. Qui au lieu d'avoir un miroir, vous savez, ces télescopes, ils utilisent des miroirs et ensuite on projette donc la lumière sur miroir, puis sur un miroir secondaire, puis sur le foyer des instruments qui vont faire les images ou les spectres. Et ces miroirs étaient assez épais et très rigides. Donc pour l'optique active, on a utilisé des miroirs beaucoup plus minces, donc qu'on pourrait même déformer un petit peu, et en mettant des vérins derrière. On pouvait en changer la forme, de façon que quand ils étaient déformés par le vent ou parce que simplement dans diverses positions, ils prenaient différentes formes, on pouvait les remettre dans la bonne position en regardant une étoile témoin et en s'assurant qu'on la voyait le mieux possible. Donc, c'est ce qu'on appelle l'optique active, c'était un concept extrêmement important et qui a fait une grande force de l'ESO. Et quand la Suisse et l'Italie sont rentrées, il leur a apporté de quoi construire de nouveau un télescope de cette même classe, 3,50 m, qu'on a appelé le New Technology Telescope, NTT, et le premier avec optique active. Et comme on a tout de suite vu que c'était un grand succès et que le NTT avait des images supérieures à tous les autres télescopes du monde, en parallèle, le directeur de l'ESO de l'époque, Lowe Wulcher, a décidé d'avoir une idée vraiment ambitieuse pour l'Europe et d'avoir un télescope beaucoup plus grand. Au départ, ça allait être un télescope classe 16 mètres ou l'équivalent d'un télescope classe 16 mètres. Et donc, ils ont fini par construire quatre télescopes de 8 mètres de diamètre chacun. C'est ce qu'on appelle le VLT, Very Large Telescope. Ils l'ont installé pas au même endroit que le télescope antérieur, mais dans un endroit où les cieux étaient encore meilleurs et plus transparents, sur le Cerro Paranal. Et donc, cet observatoire au Paranal, qui a été inauguré en 1999, demeure aujourd'hui le meilleur observatoire du monde, reconnu par tout le monde. Je veux dire, là, il n'y a aucun problème. Et s'il est tellement bon, c'est pas seulement parce que les télescopes sont exceptionnels, mais parce que un énorme travail a été fait sur l'instrumentation en Europe. Et il y a beaucoup de bons instrumentalistes dans plusieurs pays européens, et en particulier en France. La France étant le pays qui finalement a participé le plus à toute cette instrumentation suivie par l'Allemagne. Donc, avec cette grande variété d'instruments, ça permettait des observations de tout type et énormément de découvertes, dont une qui a donné le prix Nobel il n'y a pas longtemps, il y a 2020, 2019. Donc, il y a eu un prix Nobel pour l'observation d'étoiles tournant autour du centre de notre galaxie et leur trajectoire ont démontré qu'au centre de notre galaxie, il y avait un gros trou noir, une masse de à peu près 4 milliards de fois la masse du Soleil. Alors, ça ne suffisait pas, évidemment, je veux dire, il faut continuer à avoir de l'ambition. Donc, pour ce qui est le visible, on a décidé, donc moi j'ai été directrice de 1999 à 2007, et pendant que j'étais directrice, on a décidé de faire un télescope encore plus grand. Finalement, on a pris un diamètre de 39 mètres, là aussi avec un concept complètement nouveau. Pas seulement, là je vous ai décrit les trois miroirs habituels, hein, le primaire, le secondaire, mais pas seulement un trois miroirs, mais cinq miroirs, et qui permet déjà de corriger en partie des fluctuations de l'atmosphère qui gênent les observations. Donc, c'est ce qu'on appelle l'Extremely Large Telescope. C'était le Very Large, maintenant c'est l'Extremely Large. Et il est en construction aujourd'hui tout près de Paranal, donc pouvant utiliser aussi le centre de Paranal. Et Moi, disons, j'ai fait les études, on a décidé ce qu'on allait construire et j'ai trouvé aussi l'argent pour faire les premières études. Et puis mes successeurs ont pu finir les études et entamer la construction. Et puis l'autre chose qu'on a fait, c'est un grand projet mondial qui s'appelle ALMA, Atacama Large Millimeter Array. Alors là, c'est à d'autres longueurs d'onde, c'est à la limite entre l'infrarouge lointain, disons, et la radioastronomie, mais en fait, ça utilise des techniques de radioastronomie, mais à des longueurs d'onde relativement plus courtes, des ondes de longueur d'onde du millimètre et même du sub-millimètre. Alors, les longueurs d'onde sous-millimétriques, c'est difficile de les observer depuis la Terre parce que c'est absorbé par l'humidité. Et donc, ça se fait en général depuis l'espace. Mais évidemment, dans l'espace, on ne peut pas faire des télescopes aussi grands. Et si les télescopes ne sont pas très grands, on n'a pas non plus une très grande sensibilité, parce que la sensibilité dépend de la surface de détection qu'on a. Donc, on a décidé de travailler quand même dans ce millimétrique, dans certaines fenêtres de longueur d'onde où il y avait moins d'absorption. Et en plus, en allant à 5000 mètres de hauteur dans un grand plateau dans les Andes, qui s'appelle Chajnantor. Et là, on a construit donc ALMA avec 66 antennes qui travaillent en interférométrie, de façon interférométrique, et qui ont permis des travaux et qui permettent en ce moment, enfin, c'est l'instrument au sol en ce moment le plus porteur au monde. Donc, on l'a construit en collaboration avec les Américains, les Canadiens, les Japonais et d'autres pays associés aux Japonais. Donc.
Qui a permis, soit dit en passant, les différents instruments, infrastructures que vous avez mises en place ont permis, bien entendu, une cartographie du ciel et de l'univers en général à une longueur d'onde non négligeable. Avant, on était, enfin, on observait le ciel à quelques années-lumière, quelques dizaines d'années-lumière. Ou quelques échantillons, on voyait des éléments un peu plus lointains. Mais ces différentes infrastructures nous permettent d'aller quasiment peu de temps après la naissance de l'univers, du fameux Big Bang, et donc avoir un balayage de connaissances absolument pas négligeable de l'univers dans son ensemble.
Surtout à étudier l'histoire de l'univers, puisque lorsqu'on regarde des objets qui sont lointains, comme ils sont lointains, nous, on les voit faibles, c'est pourquoi il faut cette grande sensibilité pour les voir, mais ensuite, nous les voyons comme ils étaient au moment où ils ont envoyé la lumière, et donc on les voit à des temps de plus en plus tôt, de plus en plus tôt. Donc, chaque fois qu'on fait un grand gain de sensibilité, on peut voir des objets plus vieux et se rapprocher, et étudier mieux l'histoire de l'univers. Et donc, effectivement, avec le VLT, bon, il y avait évidemment le VLT Hubble, le fameux télescope spatial Hubble. On travaillait un peu ensemble, Hubble pouvant faire des images meilleures parce qu'il n'avait pas le problème de l'atmosphère, mais le VLT, les télescopes au sol, pouvant faire les spectrométries qui permettent de savoir ce que sont ces objets. Donc il fallait vraiment les deux. Et donc aux longueurs d'onde submillimétriques, il y avait des observations faites, comme j'ai dit, depuis l'espace, et auxquelles mon laboratoire a beaucoup participé, et auxquelles je me suis beaucoup intéressée, mais avec un miroir de 6,50 m, tandis que nous, on avait, je veux dire, sur ALMA, on a 66 télescopes. Donc, même s'il y a un recouvrement en longueur d'onde, comme vous dites, on a beaucoup plus de sensibilité, du coup, on voit des objets plus faibles, et donc beaucoup plus lointains, et on peut remonter beaucoup plus tôt dans l'évolution des galaxies.
Vous avez eu l'idée géniale de fonder l'Aéroforum, un forum qui regroupe sept grandes organisations scientifiques européennes, le CERN, le JET, l'ESO, l'ESA, l'IL, l'ESFRE et l'EMPLE, afin de pousser le potentiel scientifique européen au maximum. Qu'en est-il aujourd'hui?
Il s'est agrandi parce que depuis, il y a eu d'autres grandes infrastructures européennes qui ont pris place et je pense qu'elles ont rejoint l'Aéroforum. Je vous avoue que je ne suis pas trop. Donc, vous me demandez qu'en est-il aujourd'hui. Je sais que ça existe toujours, c'est plus grand. Il y a FAIR, probablement, il y a EXFEL, Le premier qui a rejoint, ça a été Exfel. C'est venu vite avec Exfel. Et puis, peut-être que faire, et peut-être que l'ESS y sort, je ne sais pas. Donc, ça existe toujours. Alors, à l'époque, nous avions fait ça parce que c'était l'époque où le commissaire européen pour la science, qui s'appelait Busquin, a inventé ce qu'il appelait l'ère européenne de recherche, disons, European Research Area, dont on continue à parler, mais ça est né à ce moment-là. Et les organisations de recherche dont nous parlons ne dépendent pas de la Commission européenne.
D'accord.
Ils sont, comme je vous ai dit, c'est des organisations qui en général dépendent directement des pays, le plus souvent par des traités. En tout cas pour le CERN, pour l'ESO, pour le MBL, il y a des traités. Donc, moi, je ne voulais pas. Et Busquin faisait le tour des gens pour voir un peu quoi mettre. Et donc, on lui avait conseillé de me voir et il m'avait convoqué à Bruxelles. Et je lui ai dit, en plus de ce que vous essayez de faire, il y a une autre chose qui existe déjà, mais qui ne dépend pas de la Commission. Mais il ne faudrait pas que, du coup, comme ça ne dépend pas de la Commission, vous n'en parliez pas, parce que c'est absurde. Nous, on va parler de la Commission et vous allez